Bienvenue et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le worldbuilding des jeux vidéo et autres interactifs, le tout autour d'un confortable feu de camp. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Bon matin tout le monde, comment ça va ?
Bonjour à tous.
Ça va bien et toi ?
Je dis bon matin parce que c'est le matin. Qu'on est en train de boire du café encore.
Jack No est vraiment, vraiment de trop bonne humeur pour un dimanche matin à
9h30. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas dormi, mais je sais pas pourquoi le matin, moi j'aime bien enregistrer. Ça me...
Moi je sors du lit il y a littéralement 8 minutes, je suis éclaté au sol. Le chat m'a emmerdé toute la nuit. Je pense qu'il voulait bouffer, j'en sais rien. Il était mignon, il venait se coucher contre moi et tout, mais Jack, qu'est-ce qui tenait chaud, le bougre.
On lui fait des bisous. Et toi, Sky, comment ça va?
Moi, ça va bien. Je suis un peu fatigué parce qu'il y a quelques jours, dans ma salle d'escalade, on a organisé une grande compète et du coup, ça a fini à 4h du matin et depuis le sommeil.
What? Une compète d'escalade?
Ouais.
Et je peux imaginer la tête des bougs en train de grimper à 4h du mat.
La tête des doigts surtout.
Ça a fini, la grimpe a fini vers 23h et après ça a duré jusqu'à 4h du matin.
5h de binous.
Voilà, exactement. Okay. Je crois que j'ai tiré en tout 5 fûts de chouf, donc c'est une bière à 9 degrés, plus d'autres fûts divers qui ont été changés dans la soirée. Donc, c'est un fût de 30 litres, hein, donc voilà, ça vous laisse. J'ai tiré 150 litres d'un type de bière dans la soirée, sachant qu'il y en avait d'autres à côté.
Eh bah écoute, j'espère que tu t'es hydraté entre temps.
Moi, j'avais pas le droit de boire, hein. Moi je travaillais. Hein. Moi, j'ai
ah non, pauvre, c'est pas cool. On retourne aujourd'hui sur un petit épisode de worldbuilding, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du worldbuilding. On rappelle qu'on est un podcast aussi de worldbuilding aussi et surtout, parce qu'on a fait beaucoup d'épisodes de lore dernièrement, mais là on va parler de worldbuilder ou retranscrire l'expérience de la guerre, des batailles en particulier, genre... Voilà, vous êtes en train de créer une histoire où il y a une guerre entre deux clans ou plus, et comment vous pouvez retranscrire un petit peu l'expérience de la bataille, le stress, etc. On vous a donné quelques conseils d'écriture. Et ça va en parallèle avec tous les épisodes qu'on avait fait, par exemple les épisodes écrire des villes et des villages qui sont vivantes, les épisodes sur écrire des systèmes de magie, etc.
Donc, des feux de camp.
Des feux de camp, exactement. Donc voilà, on reste dans le thème. Écrire des choses qui ont du sens, qui sont jolies et qui vont rester imprégnées. Avant qu'on commence, est-ce que vous avez des recos ? On fait toujours un petit tour de recos avant de commencer l'épisode.
Moi, du coup, j'en ai une en thème avec l'épisode. C'est un petit manga qui s'appelle Kingdom.
Petit manga.
Petit manga de 793 chapitres.
Le salaud, il y a 70 tomes, le truc n'est pas fini.
Ouais, mais en fait, c'est super bien. Pour le coup, c'est marrant parce que c'est un manga qui n'est pas énormément connu en Europe. Parce que, en fait, ça c'est publié depuis longtemps. Et les éditeurs étaient en mode, est-ce qu'on va vraiment publier 60 tomes d'un truc? On n'est pas sûr que ça va marcher. Sachant que ça parle de l'histoire de la Chine antique.
Ah oui, c'est les trois royaumes de Chine, là.
Ouais, en fait, c'est un peu plus à l'époque, ils étaient 7 royaumes. Mais c'est ce qui mène aux trois royaumes. Et tu suis, en fait, l'aventure d'un petit garçon qui s'appelle Shin, qui a un rêve, et son rêve, c'est de devenir le plus grand général sous les cieux, comme ils disent. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est que du coup, tu vois son ascension. Parce que du coup, il commence en tant que troupe nulle. Puis après, il va être commandant d'une troupe de 10 hommes, 100 hommes, et ainsi de suite. Et il grandit. Et dans ses rencontres, il va voir plein de figures historiques. Et il est lui-même une figure historique, si vous avez lu l'histoire des Trois Royaumes. Et ce qui est très drôle, c'est que, évidemment, il y a une part de narration et de récit, mais l'auteur fait des véritables recherches pour que ça essaye de coller à l'histoire et tout, et d'avoir un truc très carré, tout en vous proposant du coup différents points de vue sur les batailles au fur et à mesure de l'histoire, vu qu'on a d'abord les points de vue du petit soldat, puis ça grandit, et là maintenant il y a des batailles de généraux, et du coup tu vois vraiment l'aspect militaire et ultra stratégique de l'époque, avec du Sun Tzu et des choses comme ça. Et en plus de ça, c'est vraiment cool. C'est un des rares mangas qui a réussi à me faire pleurer en manga papier. Mm-hmm. Et qui m'a aussi donné des frissons de hype quand t'avais, genre, quand t'as un discours militaire d'un gars qui vraiment, c'est un discours qui fait 2-3 pages et il est en mode l'armée en face de nous, on va les avoir, des trucs comme ça. Et vraiment, il te donne un truc et le récit, il te pump, tu vois, t'as envie d'y aller, t'es en mode je donne ma vie pour ce général, il y a aucun problème.
Ok.
Et c'est vraiment, vraiment très cool. Ouais.
Ça donne envie.
J'ai commencé à les acheter, je crois que quand je suis parti de France, il y avait genre 20 tomes de sortie, j'en avais acheté 17. Et je crois que maintenant, ils en sont à 50. 50 ou 60 en France.
Ouais. En fait, du coup, au final, il y a un éditeur qui s'est dit « Tiens, je vais tenter, parce que le manga, il commence à gagner en popularité sacrément au Japon. » Et au final, du coup, ils ont sorti genre 60 tomes en 3 ans. Parce qu'ils ont rattrapé tout leur retard, en mode, il y en avait quasiment un qui sortait par semaine.
Bah, ils doivent bien se vendre en Chine aussi, j'imagine, du coup.
Je sais pas si c'est publié en Chine, je t'avoue. Okay. J'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment très très cool. Et en plus, l'art style, il évolue très très fort. Et il devient très très beau.
Ouais, ça donne,
il a été influencé par Inoue, qui est l'auteur de Vagabond.
À tout hasard, est-ce qu'il est disponible en animé si on n'a pas envie de se taper toute la collection?
Alors, il est disponible en animé, mais je le conseille pas parce qu'il est pas beau. C'est un des animés qui est victime des animations 3D des époques 2010 qui sont claquées au sol.
Apparemment,
ça casse vraiment tout. Il y a pas de dynamisme, tu perds tout l'impact des scènes. Mais apparemment, dans la dernière saison, elle est vraiment bonne et moins 3D.
D'accord. Bon. Ok. Alors moi, je vais aussi rester dans la partie reco qui est sur le thème du jour, parce que je vais recommander le bouquin The Face of Battle par Keegan, qui est un petit livre, en fait, pas très cher, que vous pouvez acheter sur Amazon. Et en fait, il se concentre sur différentes batailles majeures de l'histoire, et il donne plus un point de vue sur les soldats et les gens qui y participaient. Et c'est vraiment, c'est basé sur des retours de guerre et des retours de témoins, etc. Mais c'est des vieilles guerres, et après t'en as des plus modernes, enfin des plus modernes, la Première Guerre mondiale en tout cas. Donc on a par exemple la bataille d'Azincourt avec toutes les nuées de flèches, on a la bataille de Waterloo qui se faisait au Musquet, la bataille que Napoléon avait perdue. Et t'as la bataille de la Somme en Picardie, donc qui est la bataille, une des batailles les plus meurtrières du monde. Et en fait c'est tout... C'est pas d'écriture stylisée, c'est tout en fait sur essayer de retranscrire le point de vue du troufion, du soldat sur le champ de bataille. Et retranscription de la stratégie et retranscription historique précise. Et si vous worldbuildez un univers où il y a de la guerre, où vous prévoyez de faire des batailles, je pense que c'est intéressant de lire ce petit bouquin avant. Donc voilà, c'est The Face of Battle par Keegan.
Je pense pas du tout.
Est-ce que t'as quelque chose, Matt, ou on embraye?
Ouais, j'en ai plein, alors je vais regarder pour d'autres épisodes, mais je vais vous faire deux petites recos. La première est sortie cette semaine, ou en tout cas la campagne de financement participatif pour un jeu de rôle qui s'appelle Les Chroniques de Valran, un jeu de rôle papier. C'est un copain à moi qui l'a sorti.
Valran, ça fait des années qu'il bosse.
Les Chroniques de Valran.
V-A-E-L-R-A-N.
J'enverrai le lien à Jackno pour qu'elle le mette avec la description du podcast.
La goutte de sueur.
Je vais réécouter l'épisode après en train de...
Et c'est, en fait, c'est un podcast sur lequel j'ai bossé en tant que bêta-testeur il y a des années. Donc voilà, comme c'est un pote à moi et que normalement, il y a même une compagnie, je crois, dans la campagne principale qui est nommée d'après mon perso. Voilà, c'est une petite recommandation si vous aimez le jeu de rôle papier. C'est un peu particulier justement parce que vous jouez pas forcément le rôle d'un aventurier mais d'un chroniqueur. Donc il y a un objectif de gameplay quand même assez différent du classique fantasy. Jetez-y un œil, ça me fera plaisir. Et puis sinon, un vrai reco, alors on va rester aussi un peu dans le thème mais pas parler de guerre. Je suis allé voir au cinéma cette semaine, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au ciné, un film qui s'appelle Monkey Man. Que j'attendais avec impatience, c'est le film de Dev Patel. Dev Patel, que vous connaissez peut-être pour avoir joué Slumdog Millionaire il y a longtemps. Alors voilà, le petit garçon a maintenant grandi, on a un bel homme. il est canon, le
il
salaud.
Est BG.
Et en fait, ce film, donc, c'est vraiment son bébé. Il a refusé plein de grands rôles, il s'est cassé deux doigts, trois côtes en faisant son film. Enfin, il a vraiment tout donné. Et Monkey Man, en fait, c'est donc inspiré de mythologie chinoise. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va se venger des riches et des puissants pour avoir tué sa mère. Ce film est interdit aux moins de 16, je crois. Il est particulièrement violent. Il est assez violent et un petit peu gore de temps en temps. C'est vraiment une ode à la vengeance, voire une ode à la haine. Mais il y a une réalisation, donc c'est lui qui a tout fait. Il a écrit, dirigé, réalisé et acteur principal. La réale est somptueuse, la musique est géniale. L'histoire n'est pas particulièrement originale, mais c'est très efficace. Et il y a vraiment beaucoup d'influence. On sent très clairement une influence John Wick et les séries Netflix Daredevil, Punisher. Ça marche très bien, moi j'aime beaucoup. Avec une grosse influence indienne, tant dans le contenu que dans la façon de tourner. Mais je dis indienne, je dis pas Bollywood. Donc vraiment... Voilà, c'est vraiment intéressant, il y a des plans absolument magnifiques, et il n'est pas parfait, le film n'est pas parfait non plus, mais j'en suis vraiment ressorti content, parce que voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien, je savais que lui, il avait donné beaucoup personnellement pour ce film, et j'espérais que ce soit un succès, je ne sais pas au niveau critique et commercial ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai passé un moment agréable, il fait 2 heures, je ne les ai pas vraiment vus passer, un peu comme on a tendance à conseiller des films coréens, par exemple, notamment parce que tout ce qui est histoire de vengeance, ils le font très bien, et puis aussi parce qu'ils font les choses différentes de manière... différentes de la manière hollywoodienne. Je conseillerais aussi Monkey Man pour voir quelque chose qui est fait différemment.
Ouais.
On sent l'influence hollywoodienne aussi, hein, parce que Dev Patel, il a quand même fait pas mal à Hollywood. On sent son admiration pour les films d'action hollywoodiens, mais c'est pas hollywoodien. Il y a une différence quand même notable, et c'est agréable et rafraîchissant d'en avoir de temps en temps.
Moi, je trouve que les séries indiennes aussi, en effet, elles sont super intéressantes, surtout pour ce qui est tout ce qui est crime, meurtre, élucidation, etc. Film noir, donc c'est cool, ça donne envie. J'aime pas trop la vengeance, mais j'aime bien en tout cas là, en ce moment regarder des trucs indiens. Donc,
voilà, donc Monkey Man de Dev Patel qui est sorti au cinéma, je crois, cette semaine ou la semaine dernière.
Ok, merci pour les recos. Alors on embraye, c'est parti pour l'épisode worldbuilding sur les batailles. Alors comment on pourrait commencer? Genre, imaginez, vous devez worldbuilder une guerre ou une bataille, par où on commence? C'est pas facile.
C'est... Effectivement, en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses.
Ouais.
Ça va dépendre déjà du point de vue. Je pense que le premier truc à choisir, c'est le point de vue. Est-ce qu'on parle du point de vue d'une personne ou est-ce qu'on va parler d'un point de vue historique? Donc en gros, est-ce qu'on va faire une construction d'un univers, construction d'une expérience.
Il faut qu'on comprenne c'est quoi, en fait, avant d'embrayer, le but, pourquoi ils se battent, dans quel contexte on est.
Moi, le premier problème, c'est pas ça. Moi, le premier problème, c'est le type de guerre. Enfin, est-ce que tu vas dans une guerre médiévale? Est-ce que tu vas dans une guerre moderne?
Ouais, c'est pour ça que sci-fi. C'est pour ça que je dis quel contexte, en fait.
Est-ce que c'est une guerre genre d'attrition? Est-ce que c'est une guerre d'embuscade? Est-ce que c'est une guerre ouverte? Tu vois, et après, j'ai choisi le point de vue.
Parce qu'en fait, moi,
j'aime trop mixer les points de vue.
Je suis pas d'accord. Enfin, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Mais je suis pas d'accord dans le sens où, si tu veux faire le point de vue, du point de vue d'un troufion, ne pas savoir pourquoi tu te bats ou ce qui se passe me paraît tout à fait légitime.
Alors, le troufion, il va avoir un point de vue très... il va voir à quelques pieds de distance. Alors que, voilà, comme tu dis, il va y avoir aussi une possibilité, en tout cas au cinéma ou même dans l'écriture, de pouvoir changer d'échelle, ce qui te permet d'avoir différents points de vue dans le récit, quoi.
C'est ça. Alors, après, effectivement, le contexte est forcément obligatoire. Est-ce que tu fais une bataille antique chez les Romains, une bataille médiévale, Première Guerre mondiale ou un truc futuriste? Ça, c'est obligatoire. Déjà, quand est-ce que ça se passe? Ça paraît effectivement la base de la base. Je suis d'accord avec toi.
Quelle arme on utilise, etc. Parce que ça va être aussi très important de comprendre. Mais
quelle arme,
voilà,
quelle armure,
faire grossir juste avant la bataille, en tout cas le drama, tu vois, faire monter un petit peu le stress, faire comprendre quels sont les enjeux, faire comprendre qui sont des deux côtés, ce qu'ils ont à perdre, parce que les deux côtés, quand tu te lances dans une bataille, va y avoir un des deux qui va perdre, et va y avoir nécessairement un des deux qui va y perdre beaucoup en dehors de ses armées, quoi.
Une phrase que j'aimais bien, c'était que la guerre était importante, enfin, elle avait une valeur quand les deux camps étaient justes. Et que du coup, en fait, faire un camp qui est extrêmement méchant, je trouve ça nul, parce que du coup, t'es juste en mode, je side pour les gentils, parce qu'en face, comment tu veux être d'accord avec eux? Alors que quand on dit, je sais pas, genre, c'est style un oppresseur, un opprimé, mais en fait l'oppresseur c'est pas vraiment que de l'oppression, et en fait l'opprimé, certes sa révolte est légitime, mais au final ils sont gorgés de colère et de haine, et du coup ils sont plus vraiment dans leurs valeurs non plus, t'es en mode bah là il y a un intérêt parce que c'est deux points de vue qui sont compréhensibles, qui ont été détruits et corrompus et qui se clashent, et du coup tu peux pas side pour l'un ou pour l'autre vraiment. Mais t'as envie de side pour l'un et pour l'autre. Et du coup, là, j'aime bien parce que t'as... Et là, tu mets un point de vue de Troufion pour rendre des choses encore plus pitoyables. Pitoyables dans le sens théâtral du truc où t'as de la pitié pour lui.
Dans le dernier livre que j'étais en train de lire, She Who Became the Sun, donc c'est les oppresseurs, c'est les Mongols, et les Chinois, c'est les... Genre la révolte civile qui essaye de survivre. Mais ils avaient vraiment pris le temps, juste avant la grosse bataille, de montrer les deux points de vue des deux généraux qui allaient gérer la bataille, du coup. Et c'était vraiment... Enfin, des deux côtés, t'avais pas envie qu'ils meurent, les deux personnages, mais aussi tu comprenais vraiment les choses qu'ils avaient à perdre par rapport à ça, et c'était pas genre juste tout blanc, tout noir. Donc ça, c'est cool aussi à prendre en compte.
Donc, je sais que dans cette époque-là, en général, les Mongols, ils se sont définis comme étant tout juste, tout noir, en mode, bah, ils ont juste envahi, et tout.
Ouais. Et puis...
C'est un peu vrai quand même, hein. Mais,
c'est vrai, ouais. Mais voilà, tu...
Mais c'est vrai que ça change pas le fait que les généraux, les soldats, etc., pour la plupart du temps, et c'est valable pour les Mongols, mais comme dans la plupart des guerres, ils ont pas le choix.
Oui, il y en a plein, ils sont juste là.
On leur laisse pas le choix, si tu veux pas y aller, bah
meurs. Même les généraux, ouais, c'est ça. C'est...
Et même les généraux, tu vois, c'est...
Ils obéissent à un système plus grand qu'eux, et à des stratégies plus grandes.
Exactement, ouais.
Et un truc qui est cool aussi avant les batailles, avant de rentrer dans la bataille en soi, c'est de faire aussi monter en puissance en montrant, par exemple, le campement avant, la nuit d'avant, comment se sentent les soldats au moment où ils mangent leur dernier repas, par exemple, ce genre de conversation.
Tu vois, moi, je reviens vite fait sur Kingdom, dont je parlais juste avant.
Ouais.
C'est ça qui est extrêmement bien, c'est que, bah, vu que l'œuvre est longue, t'es extrêmement attaché à ta troupe de soldats que tu suis, et au départ tu étais attaché à celui qui va devenir général, mais après vu qu'il rencontre machin, tu rencontres machin et tout, chaque soldat a son importance, et quand il y en a un qui tombe au combat, c'est pas un soldat qui tombe au combat, c'est un ami qui tombe au combat.
Ouais.
Et du coup tu le ressens encore plus, et c'est pour ça aussi que les discours de motivation ont un impact, parce qu'en fait, t'as vu que t'es ami avec tous ces gens de la troupe que tu connais, bah, t'as l'impression d'être dans la troupe quand t'entends le discours. Et du coup, c'est pour ça que t'es aussi motivé, parce que tu sais que ça a un effet sur les personnages autour de toi. Et c'est écrit de sorte à ce que, vu que t'es dans la troupe, bah, toi aussi t'es motivé parce que t'es à côté de tes frères d'armes, entre guillemets. Et ça a un côté très puissant d'avoir tous ces gens dont t'es ami. Tu sais, dans une situation périlleuse, compliquée. Et même si ça va être encore pire dans quelques minutes, le fait d'y aller ensemble et d'avoir ton objectif commun, c'est très. Bah, alors ça, c'est un parallèle très rapide, mais il y a le roman Lava qui fait un peu ça. Le fait de faire partie d'une chose commune avec un but commun fait que tu perds un peu tout sens des réalités et tous les trucs qui étaient juste en mode, mais là j'y vais parce que je suis dans le truc, quoi.
Ouais.
Et en fait, il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors par rapport à ce que tu disais, un but commun, machin, je vais faire un petit aparté moi sur la Witcher School. Je sais, ça fait un leap assez, un saut assez géant, mais en fait. J'ai vite vu à quel point juste 3 jours à faire semblant de faire partie d'une troupe pouvait vraiment rapprocher les gens pour de vrai, en fait. Juste 3 jours à faire semblant de faire partir d'une unité, et on était vraiment je peux mourir pour cette personne, enfin vraiment devenu hyper proche hyper vite, sans vrais enjeux. Donc j'imagine vraiment à quel point la même chose mais pour de vrai, où effectivement tu y joues ta vie, à quel point en fait ça peut vite
ouais, c'est clair.
Ça peut vite, enfin, t'engloutir en fait comme une vague, sans même que tu t'en rendes compte, à toute vitesse, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi très utilisé dans Kingdom notamment, mais dans plein de trucs. Et c'était utilisé par les généraux aussi, hein, qui comptaient là-dessus. Oui. Le fait que ces pauvres troufions deviennent si proches, deviennent des amis, fait que ensuite, et on le voit souvent dans Kingdom, sens du sacrifice. Mais le sens du sacrifice, là, c'est plus pour la nation, pour la liberté, machin. Ce sont des choses beaucoup plus personnelles. Leur sacrifice, c'est pour sauver leurs potes qui sont juste à côté.
Ouais, c'est pour ton capitaine, c'est pour ton archer, c'est pour ton truc. C'est pas, tu t'en fous de la nation à ce moment-là. C'est pour toi, le mec. C'est vous contre le monde.
C'est un peu ça, ouais. Mais c'est vrai que peut-être qu'on a tendance à romantiser un peu ça, mais les soldats, enfin, ils appellent les autres, même quand ils se connaissent pas, ils s'appellent frères.
Le terme frère d'armes.
Voilà, il y a vraiment une espèce de un sentiment de communauté qui est très particulier, surtout quand c'est forgé dans la bataille, dans le sang,
Camarade.
et qui te donne vraiment envie. Enfin, à ce niveau-là, tu t'en fous de l'armée, tu t'en fous de la guerre, tu t'en fous de tout.
Ouais.
Le seul truc qui t'importe, en fait, c'est tes potes, c'est tes frères d'armes à côté de toi, et ils deviennent en fait la seule raison de te battre, plus ou moins.
Et
même
ouais.
le copain, ça vient un peu de là aussi. C'était à la base, il me semble, les soldats qui partageaient leur pain.
Ah,
Déjà,
sérieux?
Le mot copain.
Le mot copain, ça vient des gens qui partageaient leur pain. Il me semble qu'à la
Ah.
base, ça venait
Ah.
des légionnaires, des trucs comme ça, qui partageaient leur pain et tout.
D'accord. Ok.
Je suis curieux, Google, effectivement. Effectivement, altération populaire de compain, en ancien français,
Compatriote de pain.
qu'à ce sujet de compagnon, soit qui partage le même pain.
Oh, c'est trop beau comme idée, comme histoire, je savais pas du tout.
Voilà. Donc, tu vois, genre, même dans des trucs comme ça, tu te retrouves que, bah, au final, tu comprends que faire partie d'un tout, ça te fait vivre de fou les émotions.
Ouais.
Mais le problème, c'est que je trouve que pour décrire une guerre, c'est vachement bien de citer des émotions.
Oui.
Mais si t'as. Moi, j'aime bien aussi avoir le grand angle. Genre, tu vois, la bataille à la Seigneur des Anneaux.
Ouais.
Quand t'as ton discours, et après, tu dézoomes et tu te rends compte, en fait, il n'y a pas genre 200 cavaliers, il y en a 3000. Et
Ouais,
t'es en mode,
c'est
ah ouais,
ça.
oh ouais. Mais.
On va parler un peu des échelles de
Vas-y.
points de vue
Ouais.
pour justement embrayer avec ce que tu dis, Sky, parce que c'est une des choses que au cinéma, en fait, ils décrivent. Enfin, quand tu décris une bataille, c'est ce qu'ils veulent absolument faire au début, c'est l'alterner entre les différentes échelles de points de vue. Ça permet, bah, même quand tu lis un livre, ça permet au lecteur ou à la personne qui voit le film de comprendre où on est, d'avoir en effet les différentes échelles, les différents enjeux entre les différents personnages, mais aussi de comprendre et de rester dans le contexte sur le niveau et l'ampleur de la bataille. Donc l'idée principale, c'est que la bataille, elle soit excitante quand tu la crées, pour la personne qui lit ou la personne qui voit, et de pouvoir aussi, comment dire, rester en focus, rester. Enfin, une bataille, c'est messy, c'est compliqué. Si tu fais que le point de vue du troufion, tu vas rien comprendre à ce qui se passe, tu vas juste voir de la bouillasse et du sang et des personnes qui souhaitent et qui s'acharnent. Mais si tu prends voilà, si tu donnes des plans larges, avec une vue genre drone, horizon, où tu peux voir les conditions météo, la taille des armées, etc. Déjà, tu as un peu plus une idée de ce qui se passe.
En fait, une bataille, c'est vivant. Et genre, il faut que tu arrives à. Genre, c'est que, par exemple, quand tu filmes un humain au cinéma, c'est cool d'avoir des gros plans. C'est cool de voir, genre, la main qui écrit une lettre pendant qu'il écrit la lettre. Mais quand une personne écrit une lettre, t'aimes bien aussi voir son visage pour voir ce qu'elle ressent. Et c'est quoi bien, mais la bataille, c'est pareil. Genre, t'aimes bien voir le point de vue du Troufion qui est en train de couper, de trancher, d'essayer de survivre. Mais de temps en temps, il faut que tu comprennes pourquoi il fait ça. Et du coup, c'est cool de dézoomer. Et ça se trouve, le Troufion, tu vois, il est en train de galérer ses grands morts, il est en train de souffrir et tout. Et tu dézoomes, mais en fait, tu te rends compte que tout son front à lui, il est en train de progresser, ils sont en train de gagner la bataille progressivement.
C'est ça.
Et puis en plus, après, tu te rends compte qu'au final, il y a un petit signal de fumée au nord-est là. Et en fait, il y a d'autres troupes qui arrivent. Et du coup, tu te dis, ah merde, ils vont se faire prendre en tenaille. Et là, du coup, t'as re le stress qui revient. Et du coup, la bataille, elle revit et t'as re un intérêt pour. Et t'essayes de relancer comme ça. Moi, j'aime pas les batailles linéaires où juste ils arrivent, ils gagnent. Où ils arrivent, ils perdent. Je suis en mode, bah, c'est pas intéressant.
Ouais.
Parce que
Mais tu
en
vois,
vrai, tu vois.
je suis assez d'accord, et effectivement, quasiment toutes les batailles, en tout cas, que j'ai pu voir, que ce soit Seigneur des Anneaux, que ce soit Game of Thrones ou Highlander, pardon, pas Highlander, Braveheart,
Vikings, ah, Braveheart.
ça alterne énormément entre les points de vue grande échelle et première personne, ou en tout cas gros plan.
Et même entre
Mais.
trois échelles, parfois, t'as le plan large avec la vue, t'as le plan général, par exemple, et ce qu'ils ressentent, genre Braveheart, William Wallace et tous ses armées de généraux autour de lui, et ce qu'ils ressentent. Et tu vois des fois sur leur visage, même s'ils sont en train de gagner la guerre, ou en train de perdre la guerre, ou s'ils sont d'accord avec leur général ou pas. Et après, tu te ressentes en plan serré sur le Troufion, quoi.
Ouais. Mais moi, j'aimerais bien voir quelque chose où il n'y a pas ça, justement. Parce que si tu restes uniquement en plan large, avec que le contexte, ça va être un peu ennuyeux. Mais. Ça permet aussi vraiment de, enfin, si tu réfléchis 2 minutes, de comprendre à quel point les généraux pouvaient en avoir rien à foutre en fait.
Ah oui.
Puisque toi-même, en fait, en ayant juste la vue d'ensemble, tu oublierais facilement
La valeur d'une vie humaine.
la valeur d'une vie en fait, et que tout ce que tu vois, c'est une masse et pas une somme d'unités. Et inversement, j'aimerais beaucoup une bataille qui est filmée uniquement à la première personne, où tu n'as pas idée du contexte et où, et en fait, tout ce qui arrive au sol, enfin, tout ce que tu comprends, c'est ce que le soldat comprend. Et qu'en fait, quand t'as l'armée qui arrive en tenaille, tu le saches pas et tu le saches que quand c'est trop tard, que t'es pas dans cette anticipation-là, que t'aies l'impression de galérer, que t'entends ton général dire on a ouvert leur flanc, tous à droite, enfin, ce genre de choses, tu vois. Parce que ça permettrait vraiment de donner le vrai point de vue du soldat, et le point de vue du soldat par rapport à la guerre elle-même ou à la bataille, il est ridicule, il comprend rien de ce qui se passe parce que c'est trop grand, il voit, enfin, à moins que ce soit une escarmouche à 10 contre 10, tu vois. Il est effectivement perdu dans la masse, et de vivre l'expérience depuis cette masse et uniquement depuis cette masse pourrait être intéressant. Je dis pas qu'il faut faire ça
Ça,
à chaque fois, hein.
C'est un peu plus ce que t'as dans les livres, à la limite, où les gens ils peignent juste
Là.
soit une chorégraphie d'un personnage, soit une peinture, genre dans The Witcher par exemple, quand il se bat contre des brigands ou contre des monstres, tu vois, t'as vraiment juste le point de vue du Witcher et ce qu'il fait. Mais
Mais là,
quand t'es
nouveau,
dans un
c'est trop
cinéma,
petite échelle.
t'as pas envie d'ennuyer les gens, tu fais un peu plus de granularité.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça, c'est quelque chose que moi j'ai déjà vu pas mal de fois, et en fait, tu le trouves dans les jeux vidéo plus.
Dans les jeux
Parce
vidéo, oui,
que,
c'est vrai,
dans
ouais.
les dans... en fait, le problème, c'est dans un film, bah, t'as besoin de plaire à une masse de gens, et je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui seraient intéressés. Enfin, il y en a peut-être beaucoup, mais d'un point de vue producteur, d'un point de vue financier, je pense que c'est trop risqué de prendre le risque de faire une bataille où t'as qu'un point de vue. Du coup, ils sont un peu obligés de switch, entre guillemets,
Ouais.
pour rameuter le chaland, comme on dit. Et par contre, en jeu vidéo, genre tu prends MW2 ou Titanfall 2, tu prends leur campagne, vu que t'es qu'à ton point de vue à toi quasiment, t'as pas
C'est vrai.
beaucoup de plans larges, t'es impliqué à fond dans ta baston, dans ta guerre, et c'est là t'as des trucs de surprise, comme tu disais, le général qui est en mode oh putain, ça a perché le flanc droit, ça a percé le flanc droit, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu te retournes en mode ah oui, il y a des soviets.
Ah zut.
Et du coup, genre jeu vidéo, je pense que ça marche mieux parce que
C'est
t'es
vrai.
complètement plus impliqué dans le truc, et donc le Troufion, c'est pas un Troufion, c'est toi le Troufion. Mais et pareil, t'as les plans larges des RTS, parce que tu sais que les gens qui font des RTS, ils sont en mode moi j'adore la stratégie, j'adore avoir des troupes et tout, c'est trop bien.
Mais
Et du
justement, mais
coup,
leur intérêt est uniquement
voilà, eux, ils en ont un
au
manquement
niveau du général,
stratégique.
enfin voilà, stratégique général, et ceux qui jouent RTS, ils en ont rien à foutre que la moitié de
Oui,
leurs unités elles meurent, quoi. Ce qui
oui
importe, c'est gagner
toi.
la guerre, quoi.
On voit tes Ergroches là, il y en a 55 qui sont morts en 2 secondes, mais t'en mets, c'est pas grave, j'en fais 55 autres, et voilà.
Ouais.
Mais c'est très intéressant, ça, en fait, aussi, de voir ce côté que les. Ça dépend du style de jeu que tu aimes, et que ça va te faire vivre des expériences complètement différentes, en fait. En fonction de ceux qui aiment la stratégie, ils vont vivre effectivement la bataille à grande échelle et avec, voilà, envoyer le flanc, envoyer enfin, les cavaliers, machin. Alors que ceux qui jouent à des FPS ou à des RPG, avec leur vue première personne, vont vraiment voir peut-être même la même bataille, mais d'un point de vue uniquement première personne. Et au final, ceux qui jouent au jeu de stratégie, ils en ont rien à foutre de perdre une unité complète tant qu'ils gagnent la guerre. Si le joueur avait son perso dans cette unité, il en aurait vachement quelque chose de plus à foutre quand même.
Ouais.
Tu vois? Et cette dichotomie est hyper intéressante, je trouve.
Alors qu'il y a vraiment un kiff, je trouve, quand tu joues un RTS, à préparer ta bataille, à bien mettre tes petites unités, et puis après tu lances start. Tu accélères un petit peu pour que les batailles se rencontrent. Après, tu remets vraiment en mode lecture simple et tu vois les personnages qui se rentrent les uns dans les autres et c'est ça un peu le kiff.
Alors, en parlant de stratégie, pour faire une petite recommandation à ceux qui veulent effectivement faire du world building, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, renseignez-vous un petit peu sur la stratégie et ne me faites pas une Game of Thrones. Ne lancez pas vos cavaliers tout seuls devant sans aucun backup frontal contre l'infanterie. C'est débile. Ne faites pas des choses débiles.
Ouais.
Ne faites pas de l'idiot plot.
Bah, en général, regardez à quoi ressemble votre bataille. Est-ce que vous êtes en train de faire un siège? Est-ce que vous êtes, je sais pas, sur une île? Est-ce que vous êtes en train d'envahir? Est-ce que vous êtes dans l'entrée d'un gouffre ou je sais pas quoi? Et regardez sur Internet, googlez des batailles réelles, comment les vrais stratèges s'en sont sortis à ce moment-là. Ça vous donnera quand même pas mal d'idées.
Les batailles antiques, parce qu'il n'y avait pas avec zéro technologie, mais les
Ouais.
batailles grecques et romaines, c'est hyper intéressant de voir
Ouais.
comment Alexandre le Grand, les campagnes d'Alexandre le Grand, ces stratégies, elles sont ouf.
Ouais.
C'est hyper sympa à voir.
Et même les batailles
Mais
marines, les stratégies
bataille marine aussi, ouais.
maritimes grecques. On vous en donnera quelques-uns à la fin du podcast, c'est sûr, parce que elles sont cool, quoi.
Ouais. Mais je regardais hier sur YouTube la bataille du gouffre de Helm
Ouais.
dans Le Seigneur des Anneaux. Et
C'est
quand il y
dégueulasse.
a Best,
Ouais.
The Best, qui reste quand même la plus grande comparaison. Hein. Game of Thrones qui dit, oh, on va être aussi bien que le gouffre de Helm. Déjà, non. Puis voilà, quand tu sais.
Alors là, tu fais référence à la bataille de la dernière saison avec Jon Snow, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais, ouais, qui okay, disait que ouais. Ça allait être aussi bien. Enfin, mieux que le gouffre de Helm. Bref.
Dans le noir.
Quand il y a Gandalf qui apparaît avec ses cavaliers. Et qui t'as une énorme charge qui arrive sur le côté, donc déjà ils prennent le flanc, ce qui est pas débile, mais on voit vite les orcs quand même se replacer et amener les lances. Enfin, c'est même pas des lances, c'est des piques, c'est des pikes. Et je me suis dit, oh là, ils vont se faire défoncer. Enfin, si tu veux, que ce soit minimum réaliste, mais toutes les 5 premières vagues, elles vont se retrouver empalées, toutes les autres derrière, elles vont trébucher sur les cadavres de leurs potes, ça va être n'importe quoi. Et là, on voit Gandalf qui utilise ses pouvoirs. Alors, certes, c'est de la magie, hein. Mais pour aveugler ses ennemis, et on voit bien un ou deux plans d'une demi-seconde, hein, où les orques aveuglés, ils relèvent leur pique ou ils les laissent tomber.
Ouais, c'est la stratégie.
C'est pas ses pouvoirs en plus, c'est juste le soleil qui se lève.
Oui, il utilise le soleil, voilà. C'est pour ça qu'il dit j'arriverai aux lueurs.
Il a coordonné son assaut, bon timing pour le soleil.
Voilà, et ben, c'est encore plus intelligent. Alors je crois que c'était ses pouvoirs, mais si c'est juste le soleil, d'avoir utilisé ça pour aveugler leurs ennemis, et c'est hyper intelligent parce que. Ça permet d'adresser un point problématique de crédibilité. Et je parle pas de réalisme, parce que c'est sur les anneaux, c'est pas réaliste. Mais de crédibilité. Et d'avoir une vague de cavalerie qui s'empale sur. Enfin, qui rentre direct dans des rangées de piques et qui passe comme si c'était du beurre, ça a aucun sens. C'est pas possible. Mais là, ils ont adressé ce problème. Ils ont utilisé effectivement la position du soleil ou la magie. Pour les aveugler, pour qu'ils redressent leur pic.
Et là, tu,
c'est hyper sympa.
Tu mentionnes quelque chose sur lequel je dois absolument briller, c'est que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui apprécient le côté fait arriver un allié au moment où tout est perdu, où tu sens que la bataille est sur le point d'être. Bien sûr, c'est pas en mode Deus Ex Machina. Gandalf, il avait dit, j'arriverai aux lueurs du troisième jour.
Troisième jour, regardez à l'est,
voilà. Mais le moment où ça arrive et tu te dis, ah putain, oui, c'était dans le chapitre 2, j'avais oublié qu'ils avaient fait cet accord, qu'il y avait cette entente entre cette armée, et que l'allié, il arrive au moment où tout est perdu, c'est quand même un gros kiff. Et oui. Tu me fais penser aussi, ça me rappelle une bataille que Hannibal, qui est un des fameux stratèges bien connus, voilà, c'était l'un des premiers à avoir annihilé des armées romaines sur leur propre sol à l'époque. En plus, je crois que c'était 200 avant Jésus-Christ. Hannibal, il n'avait pas beaucoup de troupes, il n'avait pas beaucoup d'équipement. Mais pendant un assaut, en fait, une des stratégies qu'il avait employées qui était géniale, c'est que tu avais plein de cavaliers qui arrivaient en face des armées à main. Et en fait, ils s'étaient écartés de gauche à droite. Ils avaient laissé rentrer les armées de cavalerie. Et au moment où les cavaliers étaient à l'intérieur, ils avaient aussi des piques. Et ils s'étaient renfermés pour se rabattre, pour détruire les cavaliers. Donc voilà, avant, les cavaliers s'étaient utilisés, avant Gengis Khan, où ils tournaient autour des ennemis. Les cavaliers, c'était surtout, en fait, faire rentrer dedans, faire détruire...
Oui, c'était grosse charge à impact.
Grosse charge à impact, exactement.
Okay. Donc... Alors... Je veux quand même mettre un bémol là-dessus, parce que Hollywood aime bien faire ça, surtout au cinéma, hein, nous mettre des grosses charges à impact, ouais. Où les mecs qui se rentrent dedans, que ça soit cavalier ou pas cavalier, hein,
ouais.
Où tu vois les deux armées qui se rentrent dedans comme si c'était deux blocs de pierre. Non, hein, y a rien de réaliste par rapport à ça, et tous les historiens vous le diront. Les Troufions, ils étaient quand même pas si stupides et il y a personne qui avait envie d'être en première ligne, ouais. Et il y a personne qui voyait une haie de lance en face d'eux et qui disait je vais courir dedans comme un gros teubé et on va voir si ça va marcher. Ils le faisaient vraiment pas. Hein. Les charges, c'était quasiment uniquement quand ils étaient persuadés d'avoir l'avantage, donc de les prendre à revers, de prendre une unité sans défense. C'est pour ça qu'en général aussi, on lançait les cavaleries sur les archers. Ou sur les points de commandement, bref, sur ce qui a le moins de défense, les gens, ils étaient vraiment pas du genre à se sacrifier comme ça au corps à corps sans réfléchir. Hein.
Et puis, je sais pas si vous avez déjà vu un cheval, pour ceux qui disent oui, mais même si vous chargez les archers, c'est pas fou, un cheval qui te court au galop dessus, tu n'es rien, tu te fais écraser.
Si la personne a avantage d'être sur une colline qui descend et tout, un cheval à pleine vitesse qui te fonce dessus.
Ah, mais même pas, juste un cheval au galop, ça suffit. Si c'est un cheval, un cheval un peu costaud, tu vois, pas le cheval tout sec qui fait
ses. Récemment, il y a les chevaux de l'armée britannique qui se sont échappés. s'échappait, je crois, de Londres et qui courait dans la rue. Et en fait, les gens, ils couraient dans le sens inverse. Ils avaient peur des deux chevaux, tu vois. Ils étaient énormes, c'était des chevaux de guerre.
Non, mais c'est énorme. Hein. Ouais. Mais après, faut pas oublier qu'un cheval, même c'est, enfin, ça tombe très facilement, un cheval. Oui. Ça a les jambes très fragiles. Et juste un seul coup d'épée dans les jambes, ça suffit à les faire tomber. Hein. Donc, faut pas croire que ça, qu'un cheval, ça rentre dans du beurre, dans une masse armée comme dans du beurre. Donc, ça, c'est pas vrai. Et j'en parlais à ma femme hier. Il y a les Caroléens. Caroléens, c'est l'armée suédoise du XVIIIe siècle. À l'époque, la Suède a conquis la moitié de l'Europe. Hein. Ils sont descendus jusque dans les Balkans. Ils ont effacé une bonne moitié de la Russie. Et notamment, en fait, parce que leurs soldats. Alors, est-ce qu'il y aurait-il une expérience viking là-dedans, et Berserk, je ne sais pas, mais qui étaient chrétiens à l'époque, remettaient entièrement leur destin dans les mains de Dieu. Donc, ils n'avaient aucune peur. Et en fait, puisque c'était à l'époque des mousquets, qui étaient les premières armes à feu, mais qui étaient très peu fiables en termes de précision, ils marchaient beaucoup, beaucoup plus proche de l'ennemi que leurs adversaires, parce qu'ils n'avaient pas peur. Et en fait, ce qui fait que les premières salves ennemies étaient tirées aux distances habituelles, mais donc avec très peu de précision. En gros, plus ou moins quand ils commençaient à avoir peur de se faire tirer dessus, quoi. Sauf que les Caroléens continuaient à avancer sans tirer. Ils perdaient en général assez peu de membres, parce que faible précision. Et ensuite, le temps que les autres chargent, ils étaient assez prêts pour, entre guillemets, leur mettre une balle entre les deux yeux. Mais donc, ce concept en fait, de charge aveugle où j'ai pas peur de mourir, il arrive, d'un point de vue historique, très tard. En tout cas, dans l'Europe médiévale. Je sais pas trop ce qu'il en était chez les Antiques.
Avec Dieu et
exactement. Et en gros, c'est si Dieu a décidé que je mourrai et je rejoindrai Dieu. Donc il y avait vraiment le concept de n'avoir aucune peur parce que c'est plus dans mes mains. Mais c'était des années d'entraînement et d'hypnose entre guillemets, de brainwashing, de lavage de cerveau pour en arriver là. Mais voilà, ce concept de je leur fonce dessus jusqu'à être assez proche pour leur taper en n'ayant pas peur de me faire faucher en arrivant. Ça arrive vraiment très tard. Donc, le gros conflit frontal avec deux blocs de 10 000 personnes qui se rendent dedans, pas une seule seconde. Hein,
Alors, après, c'est vrai que c'est très Hollywood de montrer ce genre de bataille. Et après, on a dit qu'on allait vous parler du côté grandiose de l'art de frôler la mort, que parfois, en fait, c'est bien aussi quand vous faites une création d'univers pendant une bataille d'ancrer en tout cas des peintures dans la tête du lecteur ou de la personne qui voit, parce que franchement, c'est non seulement ça va être des soldats qui vont être empreints de PTSD et qui vont s'en rappeler plus tard dans les chapitres suivants, mais aussi pour le lecteur, tu vois, ça va être la scène money shot qui va vous rester en tête, qui va vous marquer.
Tu regardes la scène où le roi arrive à aider le condor, la charge de cavalerie, tous les bulldogs qu'il y a, et au moment où ils avancent, t'as la musique, puis t'as un drop de musique, et tu vois les lignées de piquiers qui sont immenses, les lignées de cavalerie immenses, et ils se rentrent dedans, c'est un shot de zinzin, et il y a énormément de gens qui s'en souviennent. Hein. C'est une folie, comme ce shot est beau en termes de cinéma, et en termes de strat, il est un peu plus...
Ce qui marche bien, c'est que c'est plus genre, t'as l'impression de regarder une peinture que... dans The Witcher, où t'as vraiment l'impression de regarder un mec qui fait des chorégraphies, tu vois. Et en fait, quand tu écris justement une scène comme ça, l'idée, c'est d'essayer de refaire une peinture et d'avoir un peu plus de ce côté d'imagination, de grandiose et de show don't tell, tu vois, plus genre, par exemple, d'utiliser les informations sensorielles pour les soldats, d'utiliser par exemple, de décrire tout ce qui se passe au niveau de ses sens. Genre, par exemple, au niveau du goût, tu vois, si sa lèvre, elle explosait, de sentir le sang qui coule dans sa lèvre.
Il a un petit goût ferreux dans la bouche, il sent que ses membres sont en feu, des choses comme ça, essayer de taper dans tous les sens.
Pour l'odeur, tu peux décrire, par exemple, l'odeur de la laine de l'ennemi dans son cou. Ou pour Louis,
ça devient un peu sensuel, hein, quand même.
Ça devient un petit peu bon, c'est sexy. D'un coup,
c'est le général qui est là, mais t'inquiète pas.
Oh.
Mais
j'avais marqué pour Louis aussi, tu peux pas hésiter à utiliser des onomatopées, il n'y a pas de problème à écrire des onomatopées, genre slam, tu vois, quand le mec il met un poing qui s'écrase dans le mur, ou le whoosh, tu vois, de la volée de flèches qui vient passer autour de toi. Ça peut être aussi des acouphènes quand il y a des canons à décrire, qui est cool aussi.
Bah si t'as un canonnier, tu peux décrire genre le tir, et le fait que pendant genre 20 secondes, il voit plus rien, il entend plus rien, il comprend plus ce qui se passe, et quand il rouvre les yeux, il se rend compte qu'en fait il a touché personne et que les ennemis sont à 5 mètres de lui. et un truc comme ça, tu vois. Bon, c'est un peu bizarre que le canonnier, on va se conduire sur 5 mètres.
Mais... Au niveau des sens, tu peux dire, ok, on va avoir plein d'interactions humaines et plein de blessures, donc évidemment, il va y avoir des sens, mais ça peut être aussi des sens de ressenti plus personnel, genre ta transpiration, les explosions de boue qui t'arrivent sur le visage, des concussions ou la tête qui tourne, etc. Tu sais, quand tu commences à avoir la tête lourde. Donc ça peut être des trucs comme ça aussi que vous décriviez quand vous faites le point de vue Truffion, qui sont des informations un peu plus sensorielles et un peu moins descriptives et frontales, quoi.
Un peu moins de données, un peu plus de ressenti.
Voilà. Je vois que tu dois y aller, Sky.
Dans 10 minutes.
Ok, on a 10 minutes de Sky avec nous.
Ok. Bon, on va passer au point chimère, alors
Non, mais j'aimerais bien juste qu'on parle d'un truc. Ouais, avant, c'est aussi le point de vue du Truffion. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit décrire des scènes de personnages du point de vue du Truffion? Alors déjà, j'aimerais bien juste vous dire, connaissez vos armes, de quoi ils sont équipés, culture, époque, et si vous n'êtes pas une personne qui sait manier cette arme-là, allez voir des vidéos YouTube de comment on manie ces armes, quels sont les différentes combos possibles que vous pouvez donner à ces personnages-là, parce que ça va être franchement... des choses qui vont manier, qui vont se tuer les uns les autres avec. Donc,
Ça fait penser à un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Twitter et avec lequel je suis assez d'accord. C'est le concept de l'idiot plot, le plot de l'idiot. En gros, la seule raison pour laquelle il y a une histoire, c'est parce que les personnages sont stupides. Et ça rend fou. Et ça passe aussi par là. Si la seule raison pour laquelle ton personnage s'en sort, c'est parce que celui d'en face, il ne sait pas utiliser son arme...
Ouais.
Oh, qu'est-ce que c'est frustrant. Qu'est-ce que c'est frustrant, quoi.
Ouais.
Enfin, arrive un moment, il y a des trucs. Après, ça dépend. Si le mec d'en face, t'en as fait un gamin de 12 ans qui a été jeté au milieu de la guerre et qui a aucun entraînement et qui a pas la moindre idée de ce qu'il fait, ça a du sens, tu vois. Le gamin est terrifié, il utilise pas son truc correctement. Ça peut être très chouette à faire cette scène où. T'es le Truffion et t'as l'armée ennemie en face et tu vas au combat et en face t'as un gamin de 12 ans qui tient une lance 3 fois plus grande
comme
pour lui,
comme il y avait beaucoup à l'époque même
c'est ça et qu'il la secoue dans tous les sens comme il peut, ça peut être vachement intéressant effectivement parce que c'est complètement crédible. Mais si t'as un guerrier entraîné, un chevalier ou un garde du corps un peu comme il peut y avoir dans les péplums etc. Des gladiateurs et qui utilisent leur truc, mais comme ça, aucun sens, quoi. Enfin, non merci.
Qui ont eu quelques jours pour s'entraîner juste avant, au dernier moment, de se défendre, tu vois. Généralement, c'est plus les lignes de défense qui utilisent tout ce qu'ils peuvent, tu vois.
Bah, c'est exactement ça,
Dans le gouffre de l'âme, je crois qu'il y a ça, même. Il y a les golems,
c'est
des vieillards et des enfants.
Il y a quelques vieillards, il y a quelques enfants, ils sont décrits. Et bon, il y a quand même pas mal d'hommes, mais oui, le Golas, il est en mode, mais regardez, ce sont des vieillards et des hommes remplis de peur, ils peuvent pas se battre.
Et ça aussi, c'est intéressant à montrer, c'est au fur et à mesure de la bataille, un autre truc de Show Don't Tell, c'est le visage et la peur et le côté, le moral qui descend au fur et à mesure des troupes, selon si elles perdent ou elles descendent, elles s'augmentent. C'est... voilà, ça va progressivement diminuer et je pense que c'est intéressant à montrer le côté état de détresse sur les réactions des personnages. Quoi.
Même le stress, si tu regardes encore une fois le gouffre de Helm, la guerre, enfin la bataille d'abord est un point neutre, genre les deux troupes se regardent et c'est le capitaine, c'est un vieil archer qui est là, qui n'a pas demandé à se battre, qui a visiblement 60 piges, ce qui est énorme à l'époque, et juste avec, on ne sait pas si c'est son arthrite, son stress ou quoi, il lâche sa corde et la flèche part, ça tue un gars, le gars tombe lentement, tout le monde se regarde, puis ils sont en mode, on y va, parce que ça commence. Et tout se lance à partir de ce petit truc, sans aucune stratégie, sans rien, juste
Elle est forte cette scène, je trouve. Justement. C'est un des moments où tu sais, wow, ok. Et ça, pour continuer avec juste la granularité, voilà, le soldat, il va pas juste se battre, tu vois. Il y a des moments où il va juste courir, il y a des moments où il va chasser une unité, esquiver, se défendre, récupérer un bouclier sur le sol, voir son pote mourir devant ses yeux. Donc voilà, ça va être plein d'autres trucs que vous pouvez faire plutôt que juste à chaque fois taper. c'était ça.
En parlant de ça, je vais faire deux petites recos de jeux vidéo parce que effectivement, jeux vidéo, c'est là où on a plus ou moins la première personne, mais de jeux différents dont vous avez peut-être entendu parler. Je n'y ai pas joué moi-même, mais les succès critiques sont énormes. il y a un jeu qui s'appelle This War of Mine.
Ah oui, bien sûr. Ouais, trop bien.
Donc, qui est sorti en 2014, en fait, et qui s'est inspiré du siège de Sarajevo. Et c'est un jeu de survie. Donc, c'est un jeu de survie sous le siège. Il y a une DA absolument magnifique. Et qui est effectivement vraiment inspiré là du point de vue de quelqu'un qui souffre du siège. Et c'est pas forcément de la guerre, de la bataille en elle-même, mais plus de son impact économique, psychologique.
Ça se passe en Pologne.
C'est inspiré du siège de Sarajevo, mais.
Ah d'accord, ok, je croyais que c'était un pays.
Mais je sais pas si ça se passe à Sarajevo, je sais pas exactement d'accord. Où ça se passe. Et le deuxième, je crois qu'il est sorti la même année, en 2014, parce que c'était pour le centenaire de la Grande Guerre, qui est fait par Ubisoft Montpellier, qui s'appelle Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, ou en français Valiant Hearts. En anglais Valiant Hearts.
Ça a changé le français.
Pardon ?
Ça a changé le français, Valiant Hearts.
Oui, ça a changé le français. Et en fait, c'est un jeu d'aventure et de réflexion. Pas un jeu de tir où en gros en fait on suit une famille qui a été déchirée par la guerre puisque c'est une femme française, son mari d'origine allemande et le père de la femme français où l'allemand effectivement est expulsé de France et se retrouve enrôlé dans les troupes allemandes. Le père de la femme, lui, se retrouve enrôlé dans les troupes françaises. Et en fait, on suit vraiment leurs aventures d'un point de vue très personnel, avec leurs peurs, avec leurs pertes, leurs terreurs, leurs risques. Il y a une DA très particulière, mais le jeu a été élu meilleur jeu de l'année aux Annie Awards. Enfin, il a eu énormément de récompenses. Il est connu pour être très beau, très triste. Si vous voulez... Voilà, approcher le genre du jeu de guerre de façon complètement différente. Je vous conseille de jeter un œil à ces deux jeux-là.
Ok.
Je propose que, parce que Sky va devoir y aller bientôt, on te libère, Sky, et tu nous fais ton point chimère à l'écrit, parce que de toute façon...
Si vous voulez, je peux vous le faire là, vite fait. Hein, c'est...
Ouais, il y en a 5 minutes.
Alors, en gros, notre point chimère, du coup, c'est un exercice d'écriture, et là, on voulait faire une lettre au front. Donc un soldat, quelque chose comme ça, qui écrit sa lettre. Moi, j'ai triché. J'ai fait l'histoire de la lettre au front.
Ok.
Donc je vais vous la lire, tout.
Vas-y.
Dans un petit village de Lorraine vivaient Belle et Jean. Les deux enfants étaient devenus proches au fil du temps et passaient tout leur temps libre ensemble à patauger dans la boue, sauter dans les rivières et chasser les papillons ensemble. Ils avaient grandi dans un tel calme qu'on n'aurait jamais cru que la guerre s'était déroulée à quelques dizaines de kilomètres plus loin, là où les hommes souffraient et s'entretuaient. C'était le cas du sergent Roussel, qui dirigeait une petite troupe d'hommes. Ce dernier, qui était au départ plus d'une vingtaine, n'était désormais plus que 8, hormis le sergent. Il devait manger dans les tranchées, boueuse à souhait grâce à la pluie battante qui ne semblait ne jamais s'arrêter dans la région. Il dormait, bercé par le bruit des canons qui ne cessaient de tirer que très rarement. Ces derniers avaient tous été recrutés suite à la mobilisation de 1914. Ils espéraient tous rentrer chez eux, et c'était également le cas du sergent. Il se battait à l'origine pour défendre son petit village, situé non loin. Mais désormais, il pensait se battre pour survivre. Alors qu'il se demandait souvent, en s'abritant des quelques obus qui tombaient, s'il pouvait continuer à aspirer à une vie normale après avoir vu un tel déferlement de violence. Mais c'était grâce à des gens comme lui que Jean et Belle pouvaient se balader sans souci dans leur petit village. Jean clamait vouloir devenir soldat et protéger son pays. Belle, elle, voulait devenir pianiste et inspirer les cœurs. Ces deux faisaient des plans pour leur avenir. Ils emménageraient ensemble plus tard. Ils ne pensaient pas aux enfants ou à l'amour car ils n'en connaissaient pas encore le véritable sens. Seulement, tout cela n'arrivera pas. En grandissant, Belle partit vivre à Paris car elle fut admise dans un grand conservatoire. Elle y passera une grande partie de sa vie, mais malgré la distance, leur relation ne s'était pas dégradée. Ils entretenaient une correspondance assidue, se racontant les moindres détails de leur semaine. Jean finit par devenir gendarme et poursuivit en quelque sorte l'idéal de justice de son père. Ils allaient d'ailleurs souvent manger avec ce dernier au Rébillon, un petit restaurant du petit village, à la table qui leur était réservée. Depuis quelques années, le père de Belle avait arrêté de servir des tirades répétitives au père de Jean, comme quoi ils devaient arrêter de sortir ensemble. Quelques années plus tard, Belle sortit de son conservatoire avec les plus grands honneurs possibles. Elle écrivit évidemment cette bonne nouvelle à Jean qui ne lui répondit que tardivement. Dans cette lettre, il lui avait écrit qu'il avait été rattrapé par ses divagations d'enfant et que ses rêves devenaient cauchemars. Il avait été réquisitionné pour la mobilisation de 1939. Belle voulut prendre des nouvelles et lui envoya une lettre chaque jour, puis chaque semaine. Aucune ne venait jamais en réponse. Les responsables qu'elle avait pu trouver lui expliquaient qu'assurer une correspondance avec le front n'était pas toujours aisé. C'est pourquoi elle essayait en vain de ne pas s'inquiéter. Le sergent Roussel, lui aussi, avait été rappelé. Il avoisinait désormais la soixantaine et était bien plus aigri qu'avant. Son pays l'avait à peine récompensé de ses efforts de guerre et la crise économique lui avait valu de perdre sa boutique, qu'il avait néanmoins réussi à acquérir. Il retournait au front, une fois de plus, mais cette fois-ci, une rage l'animait. Il en voulait à l'ennemi d'avoir gâché sa vie. Il n'avait tué personne lors de la Grande Guerre et ne tua qu'une personne avant que sa vie ne soit aussi fauchée lors de cette seconde Grande Guerre. C'était un jeune homme, grand et aux yeux clairs, dont la tête dépassait légèrement de son abri. Roussel avait bien visé, vidé l'air de ses poumons, puis avait pressé la gâchette. La crosse de l'arme vint se cogner contre son épaule, ce qui lui valut d'étouffer un juron. La balle fusa à travers le champ de bataille et vint se loger dans la tête de Jean, qui est en train de rédiger une lettre dans laquelle il demandait à Belle de ne pas l'attendre, car si la guerre ne lui prenait pas la vie, elle lui aurait au moins pris son âme.
Et juste comme ça, il make drop son point chimère.
What the fuck? Et sur ces mots-là, Sky se casse. Salut à tous. Il a plié le game. Holy shit, man. That was a big one. Moi, je vais dire la mienne, c'est tellement à l'opposé. Wow. Mais tellement à l'opposé de ça. Ça
ok, fait... Sky.
Il avait dit que j'avais fait un truc drôle. Il m'avait dit que c'était
Talis. Effectivement, lourd. Très joli, très bien écrit aussi.
Très bien écrit, c'est clair.
Effectivement, je veux bien que tu le postes à l'écrit dans le Discord.
Oh ouais,
pour pouvoir la relire et la partager.
Ouais, parce que moi j'aimerais bien la relire plus doucement.
Elle a été un peu trafiquée à l'oral parce que j'arrive jamais à relire exactement ce que j'écris. Mais voilà, je vous la mets dans le podcast, je vous laisse la ranger comme vous voulez.
Bah, tu l'es dit bien, ça vaut la peine de la lire doucement avec ta voix ASMR là.
Voilà. Allez, au revoir, je dois aller travailler.
Bon travail.
Bonne chance,
Sky.
Bonne vie à tous.
À plus, mon gars.
Bon, la question, c'est lequel de nous deux veut passer après ça?
Alors moi, franchement, moi j'ai fait un truc un peu naze, mais ok, je peux t'écrire une lettre comme si j'étais sur le front, si tu veux. Allez, c'est parti. Cher camarade, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé, car je me trouve moi-même dans une situation embarrassante. Vois-tu, nous sommes actuellement en Inde, le pays des épices, des éléphants et apparemment de la constipation tenace. Imagine-toi ici, au beau milieu de ces vastes plaines, entre deux batailles, avec un problème plus grand que l'empire d'Alexandre le Grand. Je suis bloqué. Et je ne parle pas de l'ennemi, non. Je parle de quelque chose de bien plus redoutable. Mon système digestif. Chaque matin, je me lève avec l'espoir de voir enfin la victoire. Mais chaque matin, c'est une défaite cuisante. Les Perses ont-ils jeté un sort à mes intestins pour me ralentir dans ma quête? Mais ne t'inquiète pas pour moi, camarade. Malgré cette situation inconfortable, je reste vaillante et déterminée. Je te salue, mon ami. J'ai hâte de bientôt reprendre ma place dans les rangs à tes côtés, avec une nouvelle énergie et un soulagement bien mérité. Bien à toi, Jack No, qui aime voyager.
pas mal.
C'est l'histoire de Jack No constipé en bataille dans les armées d'Alexandre le Grand. Ah, je me sens mal à côté de Sky. Ouais,
t'inquiète pas, j'ai pire.
Vas-y, mon gars.
Alors moi, j'ai écrit. On a beaucoup parlé du gouffre de Helm.
Ça t'a inspiré.
J'ai donc écrit en fait une lettre de l'Urukai qui va porter la flamme pour faire sauter le mur.
Waza.
Voilà, donc c'est une lettre d'Urukai au gouffre de Helm. Frère ou sœur, pas sûr. Attaque sur le gouffre de Helm, être bientôt. Météo super mauvaise. Beaucoup de pluie. J'aime. Helm a des grands murs tout blancs. Vraiment grands. Et une grande tour. Mais mur à avoir un trou. Et trou être bon pour nous. Avons préparé des bombes. Des grosses bombes avec des pics en métal. Pas sûr de savoir pourquoi les bombes ont besoin de pics, mais il y en a. Allons mettre les bombes dans le trou et après, kaboum. Et hier soir, avait une bagarre pour savoir qui allumait les bombes. Moi avoir gagné la bagarre en mordant le téton du grand gong. Moi être porteur de la flamme maintenant. Moi porter la flamme. Être grand honneur pour la famille. Grand honneur sur toi, frère. Ou sœur. Moi avoir vu la flamme. Être toute blanche et bien brillante. Pas sûr que ça être bonne idée pour attaque de nuit. Pas grave. Moi porter la flamme jusqu'au bout. Elle aussi aidé à construire des échelles pour escalader le mur. Et des écharpes plein les doigts. Elle aussi perdu mon armure. Pas pratique pour attaque. Pas grave. Moi porter la flamme jusqu'au bout. Elle m'avoir des elfes en plus des humains. Moi avoir jamais vu d'elfes avant. Ressemble à des grands poulets. Appétissant. Eux avoir un nain aussi. Pas appétissant. Doit avoir un goût de rocher. Bientôt, nous, gagner. Rien pour arrêter nous. Moi poser bombe dans trou du mur. Kaboum, grand honneur et manger de l'elfe poulet. Grand honneur sur nous, frère. Ou sœur. Pas sûr.
Ça finit comme ça. Pas sûr. Et gros bisous aux Jeux Olympiques. Portez la flamme.
En espérant qu'il n'y ait pas de bombe à pic.
Ce qui est paradoxal, parce que je crois que les Urukai, c'est des anciens elfes, non?
Ma femme a eu le même doute et elle a checké, apparemment non.
Ok. Ouais, c'est marrant. Bah écoute, je suis contente qu'on finisse avec ça parce que c'était la dep avec.
On avait dit qu'on voulait éviter la grosse dépression.
Tout ce qui se passe en Lorraine, c'est la dep en général.
Voilà, Sky n'a pas eu le mémo sur éviter la dépression. Mais,
ouais, c'est vrai.
Mais bon, voilà, cool.
Ouais, cool. Est-ce que tu avais des stratégies militaires à partager ou est-ce qu'on finit là-dessus du coup ?
Stratégie militaire à partager, pas particulièrement. C'est vrai que j'ai pas énormément. Étudier le sujet.
Ouais. Parce que toi, je sais que tu étais un fan de Sun Tzu et des stratégies.
Ouais, alors effectivement, j'ai des livres à recommander. Effectivement, okay. Sun Tzu, l'art de la guerre, est forcément un must read. Il est toujours enseigné dans les écoles militaires.
Ouais.
Pour un truc qui a 3000 ans, c'est quand même pas inintéressant. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment l'art de la guerre se porte énormément sur la psychologie. Il y a très très peu de choses en fait de vraies stratégies militaires en mode utilise tes archers à droite, tes lanciers à gauche, enfin ce genre de choses. C'est énormément sur la stratégie, sur le fait de faire peur à l'ennemi, sur le fait d'utiliser le terrain. Mais le terrain, c'est pas juste en fait pour avoir un avantage. C'est pour que l'ennemi perçoive ton avantage et pour le démoraliser. Et effectivement, hein, si tu connais l'ennemi et toi-même, tu seras victorieux à chaque bataille. Si tu ne connais que l'un des deux, tu seras victorieux une fois sur deux. Si tu ne connais ni ton ennemi ni toi-même, tu seras perdant à chaque fois. Donc effectivement, c'est aussi l'importance de l'information dans la guerre, hein, combien ils sont, où ils sont, comment leurs armées sont constituées, de quel type d'unité, ce genre de choses. Sinon, je recommande aussi énormément le traité des cinq roues de Miyamoto Musashi.
Ah oui, samouraï, c'est ça.
Ouais, le plus grand samouraï de tous les temps, même si techniquement c'était pas un samouraï, c'était un ronin. Mais qui est plus personnel, c'est plus sur des techniques d'épée personnelle.
Ouais.
Tout le côté psychologique et état d'esprit est effectivement applicable tant pour une personne que pour une armée entière. Mais
Et tout ça, c'est des petits bouquins, donc
c'est pas très cher, bouquins,
c'est facile à lire. Et je recommande aussi Strategy Six Pack, qui est aussi un petit bouquin pas cher sur Amazon, et qui parle en plus de... je crois qu'il y a l'art de la guerre dedans aussi, qui est pas mal cité. Okay. Et il y a beaucoup de préparatifs des armées de Jules César, avec des écrits de Jules César, et pendant l'invasion de la Gaule. Donc toutes les stratégies militaires qu'il a employées.
C'est vrai que ces mémoires de Gaulle sont intéressantes aussi, sont très intéressantes. Je peux aussi conseiller l'intégralité de la discographie de Sabaton. Groupe de métal qui ne fait que des chansons sur l'histoire de guerre. Et il y a des choses très intéressantes, hein, notamment beaucoup sur la Première et Dernière Guerre mondiale, sur des héros particuliers. Par exemple, en Première Guerre, Sergent Penga Magabo, qui était un Native American, donc un Indien américain, qui était un sniper d'élite, en fait, sur son histoire. Enfin, il y a plein d'histoires hyper intéressantes. Il y a pas mal de choses aussi sur les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale. What about the men executing orders? Qu'est-ce qu'on fait des hommes qui ne faisaient que suivre les ordres? Enfin voilà, c'est très intéressant. Et je vais aussi recommander une chaîne YouTube que j'adore, que ma femme m'a fait découvrir, mais qui a un rythme de sortie trop long à mon goût, qui s'appelle Confession d'Histoire.
Ah, ça me dit un truc.
C'est très 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 chouette, Confession d'Histoire. Et il y en a sur Alexandre le Grand, c'est celle qui est en cours. Il y en a sur Richard Cœur de Lion. Il y a plein de trucs. Et effectivement, sur l'histoire de la Troisième Croisade, effectivement, de Richard Cœur de Lion, sur comment ils s'y sont pris, le déroulement. Donc il y a un côté très macro, donc très point de vue élevé. Mais et puis c'est pas que le sujet du truc, puisque c'est aussi vraiment sur la vie de ces personnages historiques. Mais c'est hyper intéressant et c'est très drôle. Ça vaut vraiment le coup d'être vu.
Ok. Il y a deux autres choses aussi que je voulais vous dire. C'est au niveau des batailles maritimes. Il y en a une qui est assez connue que je voulais vous expliquer pour les armées anciennes grecques, qui s'appelle le Dieke Plus. Et je trouve que c'est intéressant de vous l'expliquer. C'est en fait, c'était à l'époque, les trirèmes, ils les mettaient à la suite, les uns à la file des autres. C'était des grands bateaux de guerre grecs. Et du coup, c'est une file de bateaux. Et en fait, ils arrivaient les uns à la suite des autres alignés pour faire une brèche à travers la ligne des ennemis en formation de front. Et l'idée, c'était que le premier bateau, le premier Tirirem, il arrivait à côté du premier navire ennemi et il coupait les rames d'un côté de celui-ci en passant. Et du coup, ça faisait que le bateau, le premier bateau, il pivotait latéralement un petit peu et il montrait son flanc à l'ennemi. Et du coup, le deuxième bateau qui était par derrière, il pouvait l'attaquer en passant.
Ok.
Donc ça, c'était une des stratégies des plus grandes batailles grecques.
C'est marrant comme quoi il y a quand même beaucoup de choses qui reposent sur l'exploitation de faiblesses.
Ouais,
mais
en beaucoup.
Fait, les faiblesses, ce qui est logique, mais la faiblesse, c'est pas forcément des trucs évidents comme « Ah, il leur manque des hommes à droite » ou ce genre de choses. C'est « Tiens, et si on attaquait les rames ?»
C'est ça.
C'est quand même hyper intéressant de se dire, il y a des mecs qui se sont dit « Non, mais en vrai, pour gagner, on va leur couper les rames. »
Bah, l'idée, à la fin, c'était vraiment les gens, c'était vraiment des stratèges dans le sens où c'était pas juste ils positionnaient des unités, ils essayaient d'éviter au maximum la casse de leur côté aussi, tu vois.
Ouais, c'est ça,
d'éviter des perses. Et dans la temporalité, un autre truc que je voulais vous dire, sachez qu'avant le XXe siècle, excepté les sièges qui pouvaient durer des mois, une bataille, généralement, c'était rare que ça dure plus d'une journée. C'était, oui. Aujourd'hui, on a des batailles qui s'allongent sur énormément de jours, même des années. Mais à l'époque, avant le XXe siècle, une bataille s'était expulsée en une journée.
Mmh. Oui, sinon, c'était les sièges, effectivement.
Ouais. Les sièges, c'était, il fallait affamer les habitants, etc. Donc, c'était très long, mais voilà.
En faisant des recherches, Neige a trouvé la guerre du football. alors en fait le nom est un peu triché parce que c'est un match de foot qui a déclenché le truc, mais c'était juste la dernière étincelle en fait, qui était entre Salvador et Honduras. Salvador et Honduras, et c'est dans les années, en 1969 je crois, et c'est, il a, ça s'appelle aussi la guerre de 100 heures et pas de 100 ans parce que voilà, ça s'est fini en 4 jours. Mais en 4 jours il y a quand même eu 3000 morts quoi.
Bah c'est clair, ouais. Imaginez 4 jours quand même en train de vous battre, ouais. Et voilà, et beaucoup de stratégies, en fait, la plupart du temps, sont des retraites aussi, tout simplement. Où tu retournes sur tes arrières, tu repenses la position de l'environnement, etc.
Ça fait penser à Kaamelott. Qu'est-ce qu'on fait ? On sonne la retraite ? Oui, bah oui, on
sonne la retraite. Stratégie française, hein. 101.
Non, mais peut-être que si on met moins de signes et plus de couleurs... Oui, bah comme ça, au lieu de confondre les signes, ils confondront les couleurs.
Bon, est-ce que c'est tout pour aujourd'hui ?
Eh ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui.
Franchement,
ouais.
J'ai bien aimé cet épisode. C'était un peu dark de parler de bataille, mais franchement, c'est cool pour du world building, je trouve.
Ouais, je suis assez d'accord. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils, à nous en parler en Discord. Si vous avez des choses en cours d'écriture, que ce soit jeux vidéo, que ce soit roman, que ce soit jeu de rôle.
Venez vous parler de vos écritures.
Ou un film hollywoodien.
De vos guerres. Si vous êtes en train d'écrire des batailles, etc., venez, on peut parler ensemble de ce qu'on connaît et vous donner des conseils et tout.
Et n'oubliez pas, lancer vos cavaliers tout seuls au front, en première ligne, c'est débile, ne le faites jamais.
Surtout contre des éléphants. Sur ce, on
allez,
vous fait des gros
ciao,
bisous.
Bonne semaine,
bonne semaine.
Gros bisous.
Ciao.